chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble la méditation du livre de Ruth. La semaine dernière, nous avons connu Élimélec et Noémie avec leurs fils. Et nous avons accompagné Noémie et ses belles-filles sur le chemin de retour de Moab vers Bethléem. Donc Noémie et Ruth sont arrivées à Bethléem bien fatiguées. Fatiguées de la route, mais aussi tristes, découragées, fatiguées de leur vie. Dans les versets 21 du premier chapitre, nous lisons que Noémie demanda « Ne m'appelez plus Noémie, c'est-à-dire douceur. Appelez-moi plutôt Mara, c'est-à-dire amertume. J'étais partie comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. » Noémie était partie de Bethléem avec son mari, avec deux enfants et riche. Là, elle rentre à Bethléem après le décès de son mari, de ses enfants et les mains vides. Mais elle se sent aussi vide. Elle a vécu des choses difficiles, mais elle est consciente aussi que sa vie sera difficile. Une veuve en Israël qui n'a pas d'enfant n'est personne. Elle n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu fait de la vie de Noémie. Comment Dieu se débrouille avec l'amertume et avec ses sens de vide. Ces sens de vide que nous pouvons bien retrouver dans nos vies. Qui n'a pas ressenti ces vides intérieurs qui personne et rien ne peut combler. Nous pouvons dire que Noémie a traversé la route non seulement de Moab à Bethléem, mais elle a fait aussi la route de la douceur à l'amertume. Noémie elle-même nous le déclare en changeant son nom. Elle ne veut plus qu'on l'appelle douceur, mais plutôt Mara, c'est-à-dire amertume. Et vous savez, dans la Bible, nous avons le chemin inverse. Nous avons un chemin de Mara à Noémie, de l'amertume à la douceur. C'est dans le chapitre 15 du livre d'Exode. Nous trouvons là le peuple d'Israël qui marche dans le désert et depuis 3 jours n'ont rien à boire. Et ils commencent, comme d'habitude, à ruspéter contre Moïse et contre Dieu, parce qu'ils ont soif. D'un coup, ils s'aperçoivent que devant eux, il y a un lac. On peut imaginer leur joie après 3 jours sans eau. Je pense qu'ils se jettent tout simplement dans l'eau. Mais il y a un petit souci. Les eaux sont amères. Elles sont Mara. L'endroit où se trouve le lac s'appelle la terre de Mara. Donc Moïse demande à Dieu d'intervenir. Sinon le peuple va mourir et surtout ils vont bien ruspéter encore contre Dieu, donc péché. Et Dieu trouve une solution géniale. Il dit à Moïse, « Moïse, tu vois, là, dans l'herbe, il y a un morceau de bois. Ben, prends ce bois et jette-le dans l'eau. Et comme ça, les eaux deviendront potables, douces. » Génial. Vous pouvez imaginer Moïse qui annonce au peuple d'Israël, « Vous savez quoi, je trouvais un petit morceau de bois que je vais jeter dans l'eau et comme ça, l'eau deviendra douce. » Ben, ils ont dû un peu le prendre pour un fou. C'est un peu ridicule. Surtout que, Israélites, ils ont vu Dieu agir de façon extraordinaire. Ils ont vu le même Moïse étendre sa main sur les eaux et le fleuve qui s'ouvrait devant eux. Ils sont passés à pied sec. Et là, non. Dieu, il choisit une simple chose. Moïse jette un morceau de bois dans les eaux qui s'appellent Mara, et les eaux deviennent Noémie, douceur. Je trouve que c'est intéressant que dans la Bible, nous avons ces deux chemins inverses. Une fois de Noémie à Mara et l'autre fois de Mara à Noémie. Vous savez, le Père de l'Église, ces morceaux du bois ont toujours interprété comme symbole de la croix du Christ. Un morceau de bois planté dans la terre qui guérit toute maladie et sauve tous les hommes. Voilà la croix. Pour faire la route de Noémie à Mara, de la douceur à l'amertume, nous n'avons besoin de personne. Tous, pour passer de la douceur à l'amertume, nous le savons faire très très bien. Et parfois, ça se fait tout seul, sans nous. Mais pour faire le chemin inverse, il nous faut un morceau du bois. C'est-à-dire, il nous faut passer par la croix. Et dans l'histoire de Ruth, ce chemin inverse que Dieu nous propose, Dieu lui-même va le réaliser. Maintenant, ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit-Saint, parce que nous allons à nouveau ouvrir cette histoire de Ruth qui se réalise à chaque fois qu'on la lit. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Viens, Seigneur Jésus, réalise en nous ce que tu veux réaliser et ce que toi seul, tu es capable de réaliser dans nos vies. Écoutons maintenant le chapitre numéro 2 du livre de Ruth, les versets de 1 à 14.
Noémie avait du côté de son mari un parent, c'était un homme de condition qui appartenait au même clan qu'Élimélec, il s'appelait Bouz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans les champs glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et s'en vint glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Sa chance la conduisit dans une pièce de terre appartenant à Bouz, du clan d'Élimélec. Or, voici que Bouz arrivait de Bethléem. « Que Yahvé soit avec vous, » dit-il aux moissonneurs. Et eux répondirent, « Que Yahvé te bénisse. » Bouz demanda alors à celui de ses serviteurs qui commandait aux moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur qui commandait aux moissonneurs répondit, « Cette jeune femme est la Moabite, celle qui est revenue des champs de Moab avec Noémie. » Elle a dit, « Permets-moi de glaner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est donc venue et elle est restée. Depuis le matin jusqu'à présent, elle s'est à peine reposée. Bouz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. Regarde, la pièce de terre qu'on moissonne, essuie-les. Sache que j'ai interdit aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va aux cruches et bois ce qu'ils auront puisé. » Alors Ruth, tombant la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère ?»« C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Bouz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu, ni d'hier ni d'avant-hier. Que Yahvé te rende ce que tu as fait et que tu obtiennes pleine récompense de la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Elle dit, « Puissé-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. Tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante, alors que je ne suis même pas l'égale d'une de tes servantes. » Au moment du repas, Booz dit à Ruth, « Approche-toi, mange de ce pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit donc à côté des moissonneurs, et Booz lui fit aussi un tas de grains rôtis. Après qu'elle eut mangé à satiété, elle en eut de reste.
Dans ce passage que nous venons d'entendre, nous trouvons encore un autre personnage, Booz. Son nom signifie « en lui la force » ou « Dieu est sa force ». Booz, c'est un parent d'Élimélec, mari de Noémie. Booz, c'est un homme religieux qui observe les commandements. Quand Booz dit à ses serviteurs de laisser Noémie glaner derrière les moissonneurs, Booz ne fait pas un geste de gentillesse, mais il observe tout simplement la loi. Dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, il est demandé que les Juifs ne prennent pas l'habitude de ramasser ce qui est tombé dans les champs, parce que ce qui tombe appartient à la terre, et la terre est de tout le monde. Donc ce qui tombe de la récolte est réservé aux pauvres et aux veuves. La loi de Moïse dit aussi, par exemple, que quand on va ramasser les raisins, il ne faut pas retourner deux fois sur la même vigne. On fait la récolte juste une fois et on ne retourne pas les feuilles du serment. Ce qui se cache sur la vigne ou ce qu'on ne voit pas reste aussi pour les pauvres et pour les veuves. Vous voyez quelle bonté de Dieu. Il pense à tout. Par la loi, il protège les pauvres. Ruth, dans sa situation triste, compliquée, une étrangère, rappelons-nous que c'est une Moabite qui est maudite par ses origines, qui n'a pas le droit d'avoir le contact avec les Israélites. Ruth ne restait pas les mains croisées pour que Dieu lui donne tout. Ruth, elle se met au travail. Elle va chercher la nourriture, même si elle doit subir les moqueries et peut-être la violence. Car rappelons-nous qu'une femme moabite est très très mal vue parmi les Juifs. Et les textes de la Bible nous les rappellent. Booz la défend aussi devant ses serviteurs en leur commandant de ne pas se moquer d'elle. Ruth, en tant que pauvre et veuve, a le droit d'aller derrière les moissonneurs et ce qu'elle ramasse, c'est pour elle. Et grâce à ça, elle peut se nourrir et aussi apporter de la nourriture à Noémie. Dans les champs de Booz, le père de l'Église ont toujours vu les symboles de l'Église. Les moissonneurs, ce sont les pasteurs de l'Église. Et les gerbes, c'est la parole de Dieu. Donc nous pouvons dire que dans sa situation difficile, Ruth cherche sa nourriture dans l'Église, en marchant derrière les pasteurs et en se nourrissant de la parole de Dieu. Son morceau de bois qui peut adoucir les eaux amères de sa vie, c'est l'Église, et c'est la parole de Dieu. Et moi, est-ce que dans mes difficultés, je cherche l'Église pour adoucir ma vie? Est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Est-ce que c'est dans l'Église que je cherche la réponse à mes questions? Dans ce passage, nous avons une autre scène très belle. Bose, sur les champs, mange avec Ruth. Et à un moment donné, nous pouvons le lire au verset 14, Bose donne à Ruth un morceau du pain trempé dans la vinaigrette. C'est un signe très fort. Pour bien le comprendre, nous allons voir ensemble deux moments dans la Bible où ce morceau du pain trempé est présent. Le premier passage, c'est l'histoire que le prophète Nathan raconte au roi David. Vous vous souvenez, le roi David tue un homme pour prendre sa femme. Et Nathan, pour montrer à David la gravité de sa faute, lui raconte une histoire très simple. Il lui dit qu'il y avait un homme qui avait une seule brebis qui était pour lui comme un membre de sa famille, comme son enfant. Que tous les matins, cet homme donnait à la brebis un morceau du pain trempé dans son bol du lait. Et à côté de cet homme, il y avait un autre homme qui avait un grand troupeau de brebis. Mais quand il a reçu une visite, il est allé tuer la brebis chérie de son voisin, cette brebis unique. Et c'est à ce moment-là où David comprend que cet homme riche, c'est lui. Lui qui avait tant de femmes est allé chercher la femme de son voisin. Et David demande à Dieu de lui pardonner. C'est là où il récite, il écrit ces psaumes magnifiques, les psaumes 50. Nous voyons bien dans cette histoire que quand une personne est très chère à nos yeux, pour signifier notre amour, on lui donne un morceau trempé dans son assiette. C'est un signe biblique. La deuxième fois, nous retrouvons ces morceaux du pain à la dernière scène. Jésus trempe morceaux du pain et il les donne à Judas. C'est quand même incroyable que Jésus montre son amour privilégié à son traître. Quelle miséricorde! Bose donne ce morceau du pain trempé dans son assiette à sa future femme, femme qui vient de Moab, pays maudit. L'homme de l'histoire de Nathan donne du pain à sa brebis chérie comme à son enfant. Jésus donne du pain trempé à Judas, son traître. Et à la messe, le prêtre nous donne un morceau du pain trempé dans le vin pour nous dire qu'il nous aime de tel amour, un amour privilégié. Il nous aime comme son enfant. Il nous aime comme une épouse. Et il nous aime même si nous sommes son traître. Vous savez quoi? Au verset 22, Noémie dit à Ruth de ne pas chercher un autre champ pour ramasser des gerbes. Et elle a raison. Ne cherchons pas de nourriture hors de l'Église, hors de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nulle part ailleurs, nous ne trouverons pas un tel amour qu'à l'Église. C'est Dieu lui-même qui peut nous aimer à la folie. Seulement lui. Et même si on nous dit tout le mal de l'Église, Et même si c'est vrai que l'église est une caverne de bandits, de pédophiles ou de menteurs, peu importe, même si c'est vrai. Mais dans l'église, Dieu nous nourrit de son corps, trempé dans son sang, pour que nous puissions vivre et vivre éternellement, pour que nous puissions nous sentir aimés dans chaque situation. Ne quittons pas l'église, ne cherchons pas un autre champ, ne cherchons pas ailleurs. Noémie, en montrant le champ où elle doit rester, indique à Ruth sa juste place dans sa vie amère. Et sa juste place, c'est le champ de Boaz qui représente l'Église. Certains pères de l'Église voient en Noémie la Vierge Marie, celle qui est la mère de l'Église. Celle qui montre les vrais champs, les vrais pâturages, pour que nous ne mourions pas de la famine. Marie a dit un jour aux serviteurs de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et ce fut le commencement des signes de Jésus. Ruth, dans le chapitre 3, que nous allons lire la semaine prochaine au verset 5, dit à Noémie, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Ruth, c'est une première disciple qui obéit par amour. Elle obéit avec la pleine confiance en Dieu, en la douceur de Dieu. Et c'est grâce à cette obéissance de la foi que Ruth a appris quelle est la vraie signification de l'amour. Elle l'a appris de qui? De Boaz. Et Boaz, où il a appris cet amour sans condition, sans réserve? Je pense que de sa mère. Dans les livres de Josué, nous avons une scène quand les Israélites doivent rentrer en terre promise. Ils rencontrent un obstacle, c'est Jéricho. Ils doivent détruire la ville de Jéricho, j'espère que vous vous souvenez de l'histoire. Et Josué, pour trouver une stratégie adaptée, envoie deux espions à Jéricho pour savoir comment procéder. Les espions à Jéricho sont de suite poursuivis par l'armée de la ville. Et pour se sauver, il se réfugie chez une femme qui s'appelle Rakab, une prostituée. Rakab cache les deux espions dans la nuit et du bon matin, elle leur montre le chemin pour s'enfuir. Et à ce moment-là, elle demande à ces deux espions de la sauver le jour qu'ils détruiront la ville. Effectivement, la seule à être sauvée de Jéricho, c'est Rakab. Rakab, après, a habité avec les Israélites. Elle a eu un fils, et ce fils s'appelle Boaz. Boaz a une mère qui était prostituée. Boaz sait que Dieu aime infiniment, même les prostituées, et que pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut sauver la pécheresse Rakab et changer complètement sa vie par son amour. Boaz a appris cet amour à la maison, par expérience concrète. Boaz a vu l'amour de Dieu pour sa mère. et il a désiré d'aimer comme Dieu. Et Boaz a aimé Ruth comme Dieu a aimé sa mère. Et moi, où j'apprends à aimer? Où je cherche les exemples de l'amour parfait? Père très saint, je te remercie pour l'Église et pour ses pasteurs. Je te remercie pour l'Eucharistie, pour la table eucharistique où tu m'attends sans cesse, pour me nourrir de ton amour. Père très saint, donne-nous ton esprit. Comble-nous de courage. Courage pour aimer à la mesure de ton cœur. Amen.